Selam kime versem, rakime versem. Selam kime.
Degrés et ensoleillé à Victoria en cette fin de journée. Il est 16h. Bonjour à tous les auditeurs de CILS FM. Bienvenue dans l'édition du lundi 4 juillet. Votre émission d'information Le Débrief commence dans quelques instants. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va lancer l'émission avec les bulletins d'infos de notre collaborateur Denis Lépine. Restez bien syntonisés à la fréquence 107.9. Je vous retrouverai dans 4 minutes avec les infos provinciales notamment. Je signale rapidement que nous accueillerons en fin d'émission vers 16h40 le professeur Kim Juniper, chef scientifique de l'organisme de recherche Ocean Networks Canada sur le campus de l'Université de Victoria. Monsieur Juniper parlera des espèces exotiques apparaissant dernièrement au large des côtes britanno-colombiennes. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. La période de commentaires est enclenchée en ce qui a trait à la légalisation, la réglementation et les restrictions de l'accès à la marijuana au Canada. Un groupe de travail du gouvernement mobilise les Canadiennes et Canadiens à s'exprimer sur le sujet, et ce jusqu'au 29 août. Le groupe sollicitera les points de vue des gens et fournira ensuite au gouvernement fédéral un rapport définitif. Le groupe de travail sollicite les commentaires des gens, mais aussi des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux. Publication du côté de Santé Canada d'une toute nouvelle ligne directrice pour améliorer l'utilisation sécuritaire des produits de santé. Les détails se trouvent dans deux guides, l'un pour les médicaments sans ordonnance ainsi qu'aux produits de santé naturelle et l'autre aux médicaments sur ordonnance. Les guides ont été élaborés conjointement par Santé Canada et l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada. Santé Canada a déclaré dans un communiqué que les consommateurs et les professionnels de la santé pourront ainsi lire et comprendre plus facilement les étiquettes et les emballages des produits. Aux États-Unis, selon des sources qui se sont exprimées au réseau CNN au cours des dernières heures, il ne devrait pas y avoir d'accusation contre Hillary Clinton dans le fameux dossier des courriels. L'ancienne secrétaire d'État a été interrogée pendant près de 4 heures récemment par le FBI et selon ses sources, eh bien, les autorités n'ont aucune preuve d'un comportement qui aurait mené à des fuites de renseignements secrets. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada poursuit son enquête dans le dossier de l'écrasement d'un avion survenu à l'extérieur de Winnipeg vendredi et il s'agit de 2 membres des forces armées canadiennes qui ont péri. Les hommes volaient dans un avion privé et n'étaient pas en service au moment de l'accident. Le capitaine Bradley Ashcroft et le capitaine Zachary Cloutier-Gill étaient à l'intérieur d'un Piper PA-28. Aucune cause possible pouvant expliquer le drame n'a encore été annoncée. Marie-Claude Bibeau est en Colombie jusqu'à jeudi. La ministre du Développement international et de la Francophonie fera des annonces de soutien, discutera avec des femmes et des jeunes et visitera des projets axés sur l'augmentation du revenu des femmes. La ministre a dit que les femmes et les jeunes représentent l'avenir d'une génération de Colombiens qui aspirent à la vie. Il s'agit de la première visite officielle de Marie-Claude Bibeau en Amérique latine. Les travailleurs de Poste Canada ont proposé un nouveau contrat de travail et le syndicat a précisé qu'il n'y aura pas de grève d'ici mercredi. Il a également indiqué que le nœud du problème dans les négociations touche les changements au régime de pension des employés. Le syndicat a rejeté la proposition de Poste Canada pour un régime de retraite qui fonctionnerait comme un REER pour les nouveaux employés. Le syndicat, lui, préfère un régime de prestations déterminé. La dernière fois que Poste Canada a connu un arrêt de travail, c'était il y a 5 ans. La vague d'attentats terroristes s'est poursuivie dimanche. Cette fois, au moins 91 personnes ont perdu la vie, dont 2 attentats à la bombe à Bagdad. Les 2 attentats ont été revendiqués par État islamique. Les autorités irakiennes ont indiqué que 86 personnes, dont 15 enfants, ont été tuées dans un quartier commerçant. Un kamikaze a fait exploser sa camionnette. Le deuxième attentat est survenu pour sa part dans le nord de la ville. 5 personnes ont été tuées. Près de 200 personnes ont également été blessées. Notons également que 6 policiers ont perdu la vie. Après sa visite en Allemagne vendredi dernier, le ministre Arjit Sajjan est à Singapour jusqu'à demain. Il prend part au sommet de l'Institut international d'études stratégiques sur la sécurité en Asie, aussi connu sous le nom de Dialogue du Shangri-La. Il doit rencontrer plusieurs partenaires en sécurité de l'Asie-Pacifique. Arjit Sajjan va participer à une séance plénière intitulée « La poursuite d'objectifs communs en matière de sécurité ». Au sport, au tennis, à Wimbledon, Serena Williams a vaincu Svetlana Kuznetsova en 2 manches de 6-3, 6-0 pour ainsi remporter une 300e victoire en tournoi du Grand Chelem. Au soccer maintenant, Euro 2016, le parcours Cendrillon de l'Islande est terminé. Victoire de la France 5-2. La première demi-finale aura lieu mercredi entre le Pays de Galles et le Portugal. L'autre portion des demi-finales sera disputée jeudi entre l'Allemagne et la France. Baseball majeur, victoire très facile de Toronto 17-1 contre Cleveland. Les Jays recevront ce soir Kansas City. Football canadien maintenant, la saison du receveur de passe des Alouettes de Montréal, S.G. Green, est terminée. Green a subi une blessure au genou droit lors du match face à Ottawa la semaine dernière. Course automobile maintenant, Lewis Hamilton a remporté, lui, le Grand Prix de Formule 1 d'Autriche et Sir Dudley Digg a remporté la 157e édition du Queen's Plate.
C'était les bulletins de Denis Lépine. Bienvenue dans cette édition du débrief 4 juillet 2016. On commence la semaine en information. Dans le débrief, on va passer aux nouvelles provinciales. Les pompiers combattent actuellement un incendie qui s'est déclaré dans la tourbière Burns Bog, non loin de Vancouver. Peut-être en avez-vous entendu parler au cours de la journée. Des routes ont été fermées et des commerces évacués alors qu'un incendie s'étant déclaré dans une zone protégée en banlieue vancouveroise a gagné une route majeure, la route 17. L'incendie de Burns Bog a été signalé vers 11h40 en matinée hier dimanche et des rafales l'ont alimenté tout au long de l'après-midi, a déclaré le chef du service d'incendie de Delta en Colombie-Britannique, Dan Copeland. Burns Bog, c'est l'une des plus importantes tourbières d'Amérique du Nord. Ça représente un défi pour les pompiers, puisque les flammes peuvent brûler sous la tourbe sèche de façon dissimulée. Dans un communiqué de presse dimanche hier, la police de Delta a affirmé que le feu couvrait entre 55 et 70 hectares au sud-est de Vancouver. L'enrayer nécessitera environ une semaine aux pompiers qui sont en activité sur le site actuellement. La fumée semble avoir rejoint le centre-ville de Vancouver. On a constaté de la fumée en matinée ce matin. Il y a aussi une odeur qui s'est répandue aux abords du centre-ville. Alors, il y a plusieurs avions bombardiers d'eau et hélicoptères qui sont en action. 26 pompiers provinciaux ainsi que d'autres services d'incendie de la région sont venus en renfort dès que le feu a pris de l'importance hier dans la journée. On peut signaler qu'il ne s'agit pas du premier incendie dans la Burns Bog. On avait constaté un incendie en 2007, en mai 2007. C'est un feu qui avait été assez important. Des pompiers avaient été blessés à ce moment-là. Plus loin dans le temps, en 2005, en septembre, il y avait également eu un feu d'une durée d'environ 4 jours. Et en 96, il y a environ 20 ans, une superficie d'environ 1,7 km avait été détruite par les flammes dans cette tourbière. Voilà, donc les dernières nouvelles concernant cet incendie en région vancouveroise, dans la tourbière Burns Bog, on apprend que les pompiers ont réussi à reprendre un petit peu de terrain sur les flammes. Le feu, la superficie du feu, aurait été réduite de 10% au cours au cours des dernières heures. Il y a maintenant 90 pompiers sur le site qui combattent les flammes. Il y en a un parmi eux qui a été blessé et transporté à l'hôpital. On ignore encore pour le moment la cause de l'incendie. C'est encore sous enquête. La route 17 demeurera fermée dans les prochaines heures, donc pour le reste de la journée, et certains commerces demeureront fermés également. Voilà pour cette nouvelle. On y reviendra peut-être demain pour vous donner le topo. On reste en région vancouveroise. On parle de droit au logement, d'accès au logement, le tout sur fond de bulle immobilière, phénomène dont on a parlé à quelques reprises dans le débrief au cours des dernières semaines. C'est un sujet familier. Donc, la ville de Vancouver enquête actuellement dans un quartier, le quartier de Xinalo Beach, j'espère que je prononce correctement, où se trouve un immeuble contenant 17 logements offerts en location de court terme sur le portail Airbnb. Alors, l'immeuble compte en tout 29 appartements et fait partie d'un secteur résidentiel de densité moyenne. Alors, c'est assez inusité de voir autant de logements dans un immeuble occupé par des unités Airbnb. Donc, cette location de logements, généralement à Vancouver, doit couvrir une période minimale de 30 jours. C'est la réglementation en vigueur. Seuls les hôtels et les bed and breakfast échappent donc à cette condition, ne sont pas soumis à cette réglementation de 30 jours. Alors, le Times Colonist, dans un article paru aujourd'hui, estime qu'il est très probable que ces logements à occupation temporaire offerts sur Airbnb le sont pour moins de 30 jours dans l'immense majorité des cas. Donc, ce sont des logements 17 sur les 29 dans cet immeuble. C'est un cas qui illustre une tendance, en fait, et c'est peut-être le plus criant des exemples récents de cette tendance donnant plus d'espace, plus de dominance sur le marché à ce portail Airbnb, et ça a des effets bien sûr sur le marché de la location, le marché des loyers. C'est le cas de cet immeuble n'est pas unique. La ville de Vancouver a actuellement le taux d'occupation le plus bas au Canada à seulement 0,6%. C'est très serré. La ville s'efforce donc actuellement de déterminer des pistes de solutions visant à atténuer l'impact du phénomène de la location temporaire sur l'accès au logement. Et cette location temporaire, vraiment, dont le symbole principal, le joueur le plus important dans cette niche de marché, si vous voulez, c'est bien Airbnb. On parle à présent de commerce avec la Chine. La Colombie-Britannique, pardon, prévoit exporter pour 65 millions de dollars de bleuets à destination de la Chine cette année. C'est un record. Le ministre de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, Norm Letnik, a annoncé hier, en fin de semaine, que la province allait augmenter considérablement ses exportations de bleuets vers la Chine, conformément à un accord commercial signé en 2015. L'été dernier, une toute petite quantité de bleuets avait été exportée en Chine pour garantir que le processus de conditionnement et d'expédition des bleuets puisse satisfaire aux exigences de qualité des autorités sanitaires chinoises. Le test s'est avéré positif et l'accord a pu être homologué, autorisant une augmentation des exportations en provenance du Canada. Le bleuet est le fruit d'exportation le plus important du pays pour ce qui est du nombre de transactions et de volumes. et du volume, le pays se classe au troisième rang mondial des producteurs de ce petit fruit, peut-on apprendre sur le portail de Radio-Canada aujourd'hui. La Colombie-Britannique représente à elle seule 96 % de la production nationale de bleuets, avec 700 000 tonnes récoltées chaque année pour une valeur de plus de 200 millions de dollars. La province affirme que le développement de ce nouveau marché d'exportation représente jusqu'à 65 millions de dollars de revenus pour les quelques 800 producteurs de bleuets britanno-colombiens. La stratégie de la province pour l'exportation de bleuets ne s'arrête pas à la Chine. La Colombie-Britannique espère en effet conclure prochainement des accords commerciaux similaires avec l'Inde et d'autres pays du sud-est asiatique. On va jeter un petit coup d'œil à la météo. Je vous le disais d'entrée de jeu, on a une très belle journée à Victoria. Vous l'avez constaté vous-même dès ce matin, parions-le. On a à présent 19 à Victoria. C'est la température qu'affiche la station du campus de l'Université de Victoria, 19 degrés. On a quelques nuages, mais ça demeure principalement ensoleillé actuellement. Ça restera à peu près dans ces conditions au cours des prochaines heures en soirée. Demain, on a des nuages, un ciel gris avec une probabilité d'averse de 30 %. 18 degrés au mercure maximum demain, donc mardi 5 juillet. De la pluie ferait du bien, assurément, puisque l'île de Vancouver traverse actuellement une période de sécheresse assez aiguë. Donc, cette probabilité est à 30% pour demain 5 juillet. Mercredi 6 juillet, ce sera le retour du soleil avec un maximum de 20 degrés. On va faire une petite pause musicale. On écoute l'auteur-compositeur Girard avec une pièce intitulée « Quelque chose dans l'air ». À tout de suite.
Quelque chose dans l'air nous porte à la dérive, un courant invisible que rien ne à nous suspendre au-dessus du vide. Quelque chose dans l'air sans nous avertir nous prive de lumière au milieu d'un soupir et plonge nos paupières. Personne ne
L'auteur-compositeur-interprète Girard avec la pièce Quelque chose dans l'air dans l'émission Le Débrief. Merci d'être à l'écoute de CILS. On va passer maintenant à la nouvelle du jour. On se penche sur le Brexit, un sujet que nous avons fréquemment abordé dernièrement. Le sujet a effectivement occupé l'avant-plan de l'actualité. Donc, dans la foulée de ce résultat favorable au Brexit, 52% contre 48%. On a eu énormément d'événements après le 23 juin sur la scène politique britannique. Le plus récent en date, c'est la démission de Nigel Farage qui était à la tête du parti politique UKIP, le UK Independence Party. Donc, c'est un nouveau rebondissement dans ce feuilleton post-Brexit. Je vous lis quelques passages d'un papier paru dans Le Monde qui parle un petit peu du personnage de Nigel Farage. Donc après Boris Johnson, après David Cameron, c'est au tour de Nigel Farage de quitter la scène politique et d'accentuer, si vous voulez, le vide laissé par ce résultat surprise du Brexit constaté donc le 23 juin à l'issue du référendum. Donc 12 jours après la victoire du Brexit au référendum, c'est un nouveau coup de théâtre dans la vie politique britannique avec l'annonce lundi 4 juillet de la démission de Nigel Farage de la tête du parti europhobe UKIP. Après le retrait surprise quelques jours plus tôt de l'ex-maire de Londres, Boris Johnson, de la course à la succession du premier ministre lui-même démissionnaire, David Cameron, la campagne du Leave a perdu sa deuxième figure de proue, le leader du UKIP, qui n'a jamais affiché la prétention de mener les discussions avec Bruxelles, assure que la mission de sa vie politique est accomplie, sortir son pays de l'Union européenne. Il est satisfait, donc il fait lui-même son exit, son propre exit. Pour cet europhobe de toujours, c'est l'aboutissement d'une carrière consacrée à dénigrer les institutions de l'Union européenne, un système qu'il juge corrompu et antidémocratique. Je vais continuer à soutenir le parti, à soutenir son nouveau leader. Je vais observer de très près le processus de négociation à Bruxelles et intervenir de temps en temps au Parlement européen, a-t-il affirmé. Bruxelles, évidemment, c'est le centre de l'Union européenne. C'est la capitale, si vous voulez, de l'Union européenne, l'Union des 27 pays membres de l'Union européenne. Donc, Nigel Farage, c'est un ex-financier, c'est un ancien trader. Il est devenu leader nationaliste et populiste plus récemment. Donc, il a toujours été obsédé par l'Europe, indique cet article paru dans le journal Le Monde en 1992. Cet ultra libéral d'inspiration thatchérienne avait claqué la porte du Parti conservateur pour protester contre la signature du traité de Maastricht. L'année suivante, il avait participé à la fondation du UKIP, le United Kingdom Independence Party, le parti de l'indépendance du Royaume-Uni. Trop sulfureux, trop clivant, parfois taxé de raciste, il a tenté en vain à 7 reprises de se faire élire député au Parlement britannique. Il s'est consolé en s'immisçant au cœur même du réacteur ennemi, le Parlement européen, où il siège depuis 1999 sans interruption, lui qui fustige sans cesse les bureaucrates non élus de Bruxelles. En 2006, ce trublion d'extrême droite, omniprésent et charismatique, s'était hissé à la tête du UKIP, un quasi-groupuscule auquel il allait donner une audience nationale. Il n'a cessé alors de marteler une revendication, l'organisation d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne. Et il a été pas mal efficace dans cette insistance, puisque David Cameron a cédé en 2013, comme l'écrit l'auteur de cet article du Monde. Il a donc cédé à cette injonction et promis d'organiser un référendum s'il était élu en 2015, ce qui s'est produit. Alors, la première grande consécration au Royaume-Uni viendra en 2014 lorsque le UKIP, comme le Front National en France, a remporté les élections européennes. Il a été Nigel Farage, toujours, élu britannique de l'année 2014 par le Times, et il s'est alors positionné en tête pour mener la campagne du Brexit. Donc, le Brexit, signale l'auteur de l'article, privera Nigel Farage de son unique mandat, celui d'élu européen. Il va bientôt quitter son siège, mais qu'à cela ne tienne, il a dit souhaiter la disparition de l'Union européenne et considère le vote du Brexit comme un premier domino en Europe. Voilà. Alors, c'est surtout un portrait de Nigel Farage. C'est un article qui présente plusieurs notes biographiques, plusieurs éléments biographiques sur lesquels j'ai passé. Si ça vous intéresse, c'est dans Le Monde. C'est paru aujourd'hui. Ça s'intitule « Nigel Farage, plus de 20 ans d'obsession européenne ». Voilà, c'était la nouvelle du jour, le Brexit, qui continue d'occuper l'avant-scène médiatique. On y reviendra un petit peu plus tard dans la revue de presse des éditoriaux. Pour le moment, on écoute la formation François and the Atlas Mountains avec une pièce intitulée « La vérité ». On vous revient dans quelques minutes avec l'agenda culturel. Restez à l'écoute.
Quand tu m'as croisé cette fois-là, que voyais-tu dans mon regard cru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas.
reçoit Andy Atlas Mountains dans le débrief avec la pièce La Vérité, 16h29. C'est le moment d'ouvrir l'agenda culturel. J'ai quelques petites suggestions à vous soumettre. Le lundi, généralement, c'est la meilleure soirée de la semaine pour le cinéma de répertoire puisqu'on a une possibilité additionnelle. C'est le Movie Monday. Effectivement, comme son nom l'indique, c'est une activité qui se déroule tous les lundis, moviemonday.ca. Si vous voulez explorer le site de ce ciné-club de répertoire, donc c'est au coin de Fort et de Lee, c'est près du Royal Jubilee. Vous avez une carte qui vous indique où se trouve exactement l'entrée du cinéma à l'adresse moviemonday.ca. Et ce soir, c'est le film Time Out of Mind. Non, il ne s'agit pas de l'album de Bob Dylan paru à la fin des années 90. C'est un film de fiction de 120 minutes mettant en vedette Richard Gere. Et c'est réalisé par Oren Moverman. C'est un cinéaste israélien établi à New York. Donc Richard Gere, qui a le rôle principal dans ce film, interprète un sans-abri qui essaie de retrouver ses marques, de repartir sur de nouvelles bases et de renouer avec sa fille dont il avait été séparé et sans doute à cause de sa vie dissolue, sa vie d'errance. Donc la bande-annonce donne envie de voir le film, vous la trouverez facilement. Donc Time Out of Mind, c'est ce soir à 18h30 dans le cadre de Movie Monday. Les plus de détails bien sûr à l'adresse moviemonday.ca. Autrement, toujours en cinéma, du côté de Ciné Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria, ce soir à 19h et 21h20, on a un biopic comme on les appelle à Hollywood, c'est-à-dire un film biographique. Ça s'intitule I Saw the Light. C'est un film de l'année dernière réalisé par Mark Abraham. Et l'objet de ce biopic, c'est le chanteur de légende Hank Williams qui a révolutionné la musique country. C'est un pionnier de la musique country. Il est mort très très jeune, ce qui a sans doute contribué à bâtir sa légende. Donc vous trouvez la note synoptique, le synopsis sur le site cinesanta.com et bien sûr les projections sont à 19h et 21h20. I Saw the Light, film biographique, oui, sur Hank Williams. Autrement, je voulais vous signaler ce soir, c'est ça, la confusion en fait, c'est que la formation musicale s'appelle Elmore's Bar and Grill et c'est au Elmore, c'est au Jazz Club, Airman's Jazz Club. Alors, Elmore's Bar and Grill, c'est la formation, c'est le nom de la formation. Elle se produit ce soir au Herman's Jazz Club. Ça, c'est sur View, au 753 View, en plein cœur de Victoria. Donc, c'est du blues ce soir que nous propose cette formation appelée Elmore's Bar and Grill. Les portes ouvrent à 8h et le coût d'entrée est de 5$. Donc, voilà pour l'agenda culturel. On va retourner tout de suite en musique. Au retour, c'est la revue de presse des éditoriaux. En attendant, on écoute « Jeter, jeter un sort » de Philémon Simon. Maintenant tu dois m'embrasser. Simon, dans le débrief, il est 16h36. Merci d'être à l'écoute de CILS. On a quelques minutes avant de passer à l'entrevue pour faire un petit tour des éditoriaux parus un peu partout dans la presse ici et ailleurs. Je tiens à vous signaler un texte signé Christian Rioux dans les pages du journal Le Devoir qui fait entendre, si vous voulez, un autre son de cloche dans le dossier du Brexit. C'est un papier qui finalement indique que le vote populaire a parlé, les urnes ont parlé, et qu'il importe justement d'analyser avec calme ce résultat sans se laisser aller à dénigrer les électeurs britanniques. Je vous lis quelques passages. On a rarement vu une réaction aussi unanime. Hors du Royaume-Uni, le Brexit ne trouve grâce à peu près nulle part dans le merveilleux monde des médias. Il n'y a même pas besoin de lire les articles pour le comprendre. Ici, on a illustré la décision pourtant démocratique du peuple britannique par des photos de prolétaires gros et gras. Là, par des chômeurs buvant de la bière, on a aussi laissé entendre qu'il s'agissait des électeurs d'une bande d'ignorants qui méritaient à peine le droit de vote. Alors, Christian Rioux, justement, invite ses commentateurs, ses observateurs de la scène politique à respecter le vote, l'issue du vote. Il continue, il demeure permis de tirer à vue sur les vieux, les pauvres, les ouvriers et les chômeurs, en parenthèse, qui ont voté pour le Brexit. Combien de fois, demande-t-il, n'a-t-on pas entendu que la jeunesse britannique avait voté pour l'Europe? C'est pourtant un mensonge éhonté. Alors, attention à l'âgisme dans l'analyse du Brexit, finalement, dit-il. Je vous encourage à lire ce texte signé Christian Rioux dans les pages du journal Le Devoir. Très bonne analyse. Que l'on soit d'accord ou non avec le choix des Britanniques, on peut quand même respecter la volonté qui s'est exprimée démocratiquement dans ce référendum du Brexit. Autrement, j'ai à vous signaler ce texte, toujours dans le journal Le Devoir, signé par la chroniqueur Manon Cornelier, qui est la correspondante du Devoir à Ottawa, donc dans la capitale fédérale. Elle écrit à propos de réformes électorales. Elle compare un petit peu l'attention que le gouvernement Trudeau a donnée à la réforme de la législation sur la marijuana à l'attention que ce même gouvernement a donnée à la réforme électorale, qui était également une promesse de campagne l'année dernière. Et elle remarque que les libéraux ne semblent pas s'intéresser vraiment à la question de la réforme électorale. Ils ont mis beaucoup d'énergie, dit-elle, dans la réforme de la législation de la marijuana. Ils vont bientôt accoucher d'un projet de loi en cette matière, mais pour ce qui est de la promesse de réformer le scrutin, la réforme électorale, Manon Cornelier, dans son texte, démontre que le gouvernement n'est pas très bien organisé et qu'il n'a pas mis toute son attention et son énergie comme il se devait de le faire dans cette réforme. Alors ça, c'est un texte intitulé tout simplement « Des raisons de douter ». C'est signé Manon Cornelier dans le journal Le Devoir, dans les pages éditoriales, bien sûr. Autrement, avant d'aller à l'interview, je tiens à vous mentionner un très bon texte, toujours dans Le Devoir. Décidément, aujourd'hui, c'est Le Devoir qui remporte la palme. Un texte sur le revenu annuel garanti, qu'on a aussi appelé le revenu universel garanti, il y a différents noms. En gros, c'est un revenu garanti à tous les citoyens, qu'ils soient chômeurs ou banquiers, qu'ils soient riches ou pauvres. C'est une formule qui a été rejetée récemment par les Suisses en référendum, justement, mais dont on continue de parler un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est une bonne idée? Les auteurs Louis-Philippe Rochon et Guillaume Vallet, respectivement professeurs titulaires à l'Université Laurentienne et co-directeurs de la Review of Keynesian Economics, notamment, se sont penchés sur la question donc du revenu universel garanti. Est-ce une fausse bonne idée, demande-t-il? Alors, ils ont un texte bien argumenté, clair et concis sur ce sujet. Je vous invite à le consulter. C'est dans Le Devoir, toujours dans les pages éditoriales. Donc, le revenu garanti, une fausse bonne idée, point d'interrogation. On va passer dans quelques instants à l'interview du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un scientifique. Il s'agit de Kim Juniper. Il est professeur à l'Université de Victoria. Il est chef scientifique de l'organisme de recherche Ocean Networks Canada. Il est passé à nos studios il y a quelques jours pour nous parler du phénomène des espèces exotiques qui apparaissent au large des côtes de la Colombie-Britannique. Il semble qu'on voit de plus en plus de nouvelles espèces exotiques qui nous avaient encore jamais rendu visite ou très peu dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Alors, Kim Juniper répond à nos questions. C'est dans quelques instants dans le débrief. Restez à l'écoute. De De retour à l'antenne de CILS FM 107,9, vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos de fin de journée, en semaine du lundi au jeudi. C'est le moment d'entamer l'interview du jour. Je suis en compagnie de Kim Juniper, qui est chef scientifique ici sur le campus de l'Université de Victoria pour un organisme qui s'appelle Ocean Networks Canada. On va parler des côtes de la Colombie-Britannique, du littoral britanno-colombien et des espèces exotiques qui apparaissent peu à peu au large et qui nous étonnent parfois. Alors, Monsieur Juniper, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a de nouvelles espèces qui apparaissent au large de nos côtes?
Des nouvelles espèces, je dirais pas. Comme disent souvent les scientifiques, c'est plus compliqué que ça. Mais en fait... On est de plus en plus présent en mer. Hein. Le public est de plus en plus sensible aussi à des espèces qu'on voit pas. On cherche toujours à expliquer les présences en fonction du réchauffement global, des changements de la mer. C'est un peu de ça, mais en même temps, on vient de passer à travers deux années assez exceptionnelles dans la Pacifique nord-est, où on a eu un réchauffement qui a duré presque 2 ans, qui a disparu, qui a été un peu balayé par La Niña qui est venue. Donc on a eu une période pendant 2 ans où l'eau de surface dans notre région était de 2 à 4 degrés plus chaude que la moyenne.
C'est considérable.
Ça fait venir des espèces qui cherchent toujours à élargir le territoire. Et ils vont là où la température leur convient. Et justement, ils sont venus dans la région. Il y a plusieurs espèces, des méduses jusqu'aux dauphins qu'on a vus assez récemment. Est-ce que c'est une signe d'un changement à long terme? Oui et non. On sait bien que les océans du monde se réchauffent tranquillement avec le climat, mais c'est des dizaines de degrés par 5 à 10 ans, donc c'est pas ça qui arrive d'un coup. Donc c'est un peu des deux, on est très conscient de l'exotique, hein. On est sensibilisé par les médias, etc. Donc on voit plus qu'on voyait avant, les publics sont plus sensibles, et en même temps, tranquillement, la mer se réchauffe, la faune change d'une année à l'autre ou d'une décennie à l'autre.
Est-ce que on peut citer quelques-unes des espèces juste pour la curiosité des auditeurs? La semaine dernière, il y avait le dauphin commun à bec court. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont qui ont attiré votre attention?
Bon, on a eu plusieurs requins qu'on voit souvent, oui, qui viennent plutôt des eaux chaudes et des poissons lunes qu'on voyait quand même de temps en temps ici, mais depuis 2 ans, c'est plus fréquent. Est-ce que ça va être plus fréquent pour l'avenir ou est-ce que, comme je viens de l'expliquer, on a eu 2 années assez exceptionnelles et puis là, on risque de retourner un petit peu à la normale pour quelques années.
Donc, vous êtes en train de me dire que le phénomène El Niño s'est achevé et qu'on a retrouvé un semblant de normal.
Oui, même avant La Niña, on a eu quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la région. On appelait ça en anglais le warm blob. Donc, c'est une grosse masse d'eau chaude qui s'est formé à l'hiver 2013 et 2014. Et c'était une masse d'eau chaude dans le golfe de l'Alaska qui s'est propagée tranquillement vers nos côtes. Ça a duré presque 2 ans avant que ce soit dispersé par les vents, les courants et ensuite par La Niña qu'on vient de vivre.
Et tout ça est modélisé, j'imagine, tout ça est observé.
C'est observé, ça c'est certain. Modélisé, ça veut dire qu'on comprend comment ça est arrivé. Ah. Et puis là, les scientifiques toujours sont en train de discuter comment ça peut arriver qu'avoir une grosse masse d'eau chaude qui a eu un impact important. Il y a eu des baleines mortes retrouvées sur la côte d'Alaska simplement parce que le plancton ne poussait pas correctement à cause de l'eau chaude pauvre en nutriments. Donc, ça a un impact écologique aussi sur les oiseaux de mer. On a eu une chute des populations d'oiseaux de mer qui ne trouvaient pas assez de nourriture à cette mer réchauffée et faible en plancton. Mais c'est fini, cet épisode qui a duré presque 24 mois. Et puis là, on revient à la normale. Pour combien de temps, on verra.
Donc, le El Niño est venu aggraver un peu la situation qu'avait créée.
Oui, on croyait qu'El Niño allait avoir l'effet d'amplifier ce phénomène, mais finalement, ça ne s'est pas fait. C'était plutôt un effet de disperser, finalement, une fois pour toutes, cette masse d'eau chaude.
Mais comment est-ce qu'une masse d'eau chaude peut se former en Alaska? C'est ça la question.
En fait, il n'y avait pas d'ajout de chaleur. En fait, ce qui est arrivé, c'est que normalement, à l'hiver, la mer dans le golfe d'Alaska se refroidit. Il y a eu des échanges de chaleur vers l'atmosphère.
Oui.
Et ça ne s'est pas fait. Les vents ont été beaucoup plus faibles au cours de l'hiver 2013 à 2014, qui fait que l'eau n'a pas refroidi pendant l'hiver et elle est restée chaude comme ça. Une grosse masse pendant 2 années. C'était une masse d'eau qui faisait plusieurs centaines de kilomètres de large et plusieurs centaines de mètres de profondeur. Donc, c'est une grosse masse.
Et quand on dit chaude, évidemment, en guillemets, ça veut dire quoi?
De 2 à 4 degrés plus que le normal.
Et la normale se situe...
En hiver, c'est pas chaud ici. Hein?
Non, c'est clair.
C'est dans les 8-9 degrés. On voyait les 11-12 au printemps. Donc, c'était déjà très chaud.
Oui.
Ça a un impact sur le plancton.
D'accord. Est-ce que ça crée des réactions en chaîne, des effets indésirables pour les pêcheurs, mais aussi pour l'environnement?
Pour la faune et les oiseaux de mer, l'effet, c'est que cette masse d'eau reste en surface. Mm-hmm. Ça empêche normalement des échanges avec les profondeurs où il y a plus de nutriments pour le plancton. Donc, c'est comme un peu comme une crème brûlée. Vous voyez, donc il y avait une couche de surface qui ne bougeait pas. Et ça empêchait les remontées d'eau en profondeur. Et le plancton n'avait pas de nutriments. Il n'y avait pas de plancton, pas de petits poissons. Et les oiseaux de mer ont eu des problèmes.
Parce qu'il faut une certaine température précise pour que l'échange se fasse entre la surface et les profondeurs. Normalement, c'est
un phénomène physique. Donc, il y a l'eau chaude qui est posée sur l'eau froide. L'eau chaude est plus légère et elle ne va pas bouger. Puis, ça empêche les vents de mélanger en profondeur. Donc, tout simplement, c'est comme mettre une couche qui empêche le mélange.
D'accord. Et donc, tous ces phénomènes sont brusques, se produisent plus rapidement et plus brusquement que par le passé. Est-ce que c'est à peu près exact de dire ça?
En partie.
Oui.
En partie, mais comme je dis au début, on est aussi plus sensibilisé à tout ce qui est hors normal.
Oui.
Et on a souvent un peu trop tendance à blâmer ça sur le réchauffement global. On sait. Les scientifiques sont d'accord, le public sait bien que le climat se réchauffe, l'océan se réchauffe avec, mais c'est pas si rapide que ça. C'est pas ça qui va expliquer les phénomènes qui se manifestent à l'échelle des mois. Mais il se peut que ces phénomènes se reproduisent plus souvent.
D'accord. Donc, est-ce que les gouvernements provincial et fédéral doivent simplement continuer d'observer ou est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour essayer de diriger un petit peu ces phénomènes, de les contenir peut-être ou...
Bon, l'océan est trop vaste pour qu'on puisse les contenir, mais si on les comprend d'avance... On peut quand même mitiger les effets, par exemple l'impact sur l'aquaculture ou même sur les pêches. On peut, si on prévoit venir, on peut changer les quotas de pêche ou préparer les pêcheurs pour une saison de vaches maigres, etc. Une fois qu'on le sait d'avance. Mais sinon, on est impuissant contre les changements climatiques.
On parlait de modélisation un petit peu plus tôt. Est-ce que vous croyez qu'il est possible de modéliser mieux ce qui se produit dans l'océan, la poche d'eau chaude dont vous parliez, le fait que El Niño n'est pas amplifié, mais simplement bousculé, un petit peu dispersé le phénomène? Est-ce qu'on peut modéliser ces choses-là à l'avance?
En partie, mais pour les modèles, dépendent souvent des données qu'on rentre dans le modèle. Donc, on ne peut pas modéliser quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant, pas avec beaucoup de précision.
Donc, ça
prend beaucoup d'observations des scientifiques par satellite. On peut voir la température de la surface de l'océan,
mais
c'est juste les quelques premiers millimètres en surface. Si on veut savoir un peu plus, il faut aller en mer avec des navires de recherche et descendre des instruments dans les profondeurs pour avoir un portrait complet de la température de la mer. Ou, comme nous avons avec Ocean Networks Canada, on a un réseau câblé au large de l'île de Vancouver où on mesure en permanence la température de l'eau, sa salinité et d'autres propriétés chimiques et physiques.
D'accord. Alors, parlez-moi un petit peu de votre travail, justement. Quel est l'objet de vos recherches?
On a commencé il y a 10 ans maintenant. On a installé le premier réseau câblé sous-marin du monde dans le détroit de Georgia, entre l'île de Vancouver et Vancouver. Et ça s'est élargi par la suite par ce qu'on appelle le réseau Neptune, qui part de Port Alberni c'est un câble qui fait 840 km de long. Donc c'est une grande boucle de câbles qui part de l'île de Vancouver, qui va au large, qui revient, et le câble est posé sur le fond. Le câble fournit l'électricité et les communications par fibre optique à des stations d'écoute et de suivi qui sont posées sur le fond de la mer jusqu'à des profondeurs de presque 3000 mètres.
Ah oui, d'accord.
Donc, 24 heures sur 24, 24, 7 jours sur 7, on suit ce qui se passe dans la mer, dans notre région. On ne regarde pas tout l'océan Pacifique, mais on commence à comprendre un peu mieux la dynamique de notre région.
Quelle découverte a-t-on fait grâce à ce réseau de câbles jusqu'à présent?
L'une des découvertes les plus inattendues était de voir les liens entre l'atmosphère et l'abysse.
Les profondeurs.
Les profondeurs qui dépassent 2 kilomètres de profondeur. On se croit à l'abri de ce qui se passe en surface, rendu à ces profondeurs-là où c'est l'obscurité totale, il n'y a pas de lumière, pas de photosynthèse, etc. Mais avec nos stations de suivi dans le fond, on a découvert que les tempêtes en surface, en hiver, l'énergie physique ou l'effet des tempêtes se propage jusqu'aux profondeurs, qui fait que il y a plein de choses. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, il y a un canyon au large de la côte ouest. Quand il y a une tempête en surface, ça fait des turbulences dans l'eau. Et des crevettes qui vivent entre la surface et le fond. Et quand il y a ces grosses tempêtes en hiver, les crevettes n'aiment pas les turbulences. Personne n'aime les turbulences. Donc les crevettes descendent vers le fond pour justement s'abriter.
Volontairement,
pour s'abriter. Et là, arrivées au fond, elles se font manger.
Ah, ok.
Donc
ça correspond à un...
Donc ça fait une connexion entre la faune qui attend, qui vit sur le fond, qui ne peut pas nager, je parle des anémones, des crabes, etc., des espèces qui restent dans le fond, qui attendent toujours l'arrivée de la nourriture de la surface. Donc c'est pas juste une descente tranquille de matière, etc. Quand il y a une tempête, c'est le pique-nique. Donc, il y a...
Et elles sont dévorées par quel type de créatures?
Par des crabes et des anémones, des crabes qui, dans l'obscurité, qui sentent la présence.
Dans l'abysse.
Dans l'abysse. Et puis, elles sont capables d'aller repêcher des crevettes avec leurs pinces dans l'eau et s'alimenter comme ça.
Est-ce que ce sont des espèces qu'on ne connaissait pas pour certaines d'entre elles ou...
Non, c'est des espèces qu'on connaît. C'est un crabe, le crabe dont je donne l'exemple. Il n'y a pas de pêche commerciale pour ce crabe parce qu'on ne connaît pas encore assez ses comportements. Il se promène sur des grandes profondeurs et pour l'instant, c'est pas vraiment rentable de faire une pêche commerciale à ces profondeurs-là.
Donc, si on peut savoir que les tempêtes influencent les abysses, le réchauffement doit les confronter aussi à certaines conséquences.
Tout à fait. Le réchauffement aura 2 effets. D'abord, de changer la fréquence des tempêtes où se trouvent les tempêtes dans les saisons. Et ensuite, ça a effet aussi sur la productivité du plancton en surface qui contrôle la bouffe qui arrive dans le fond. Parce que tout le monde qui vit dans le fond des abysses, on n'est pas là où il y a la photosynthèse, on est au fond de la poubelle, et tout ce qu'on mange arrive de la surface de l'océan. Mmh. Et il y en a toujours parce que ça descend.
Oui.
Quand ça meurt, ça coule.
Oui.
Et ça finit dans le fond. Ça peut être des petites particules de plancton. Ça peut être un poisson qui meurt, qui coule par la suite, et puis c'est dévoré par, par les nécrophages dans le fond, ou décomposé par les microbes. Et de temps en temps, il y a même une carcasse de baleine qui arrive dans le fond
et
qui crée une espèce de d'oasis qui peut durer 4-5 ans dans le fond.
Wow.
C'est vraiment fantastique.
Oui, fascinant. Kim Juniper, grand merci pour cet éclairage sur nos océans qui sont tout près et dont on ignore tout le mystère. Pour la plupart, en tout cas, vous nous avez donné un petit aperçu de ce qui se passe. On avait bien sûr la question aujourd'hui, c'était de savoir comment les espèces exotiques avaient apparu au large de nos côtes. On sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Merci pour les explications et j'espère qu'on se retrouvera à CILS pour parler des océans.
Avec plaisir.
À bientôt. C'était Kim Juniper, chef scientifique de l'organisme Ocean Networks Canada. Merci à Monsieur Juniper de nous avoir accordé cette interview. C'est déjà la fin.